Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici les titres de notre Zoom Info du jeudi 3 juillet. Un journal un peu plus long que d'habitude car c'est le dernier de la saison. À l'ODEV, pas encore de tête de liste pour les municipales, mais deux chefs de file. La France Insoumise s'est choisi un binôme pour bâtir une liste d'union populaire pour 2026. Le personnel du centre hospitalier de Clermont-Lérault conteste un projet de convention de direction commune avec le CHU de Montpellier et l'EHPAD Jean Péridier. L'association Agir pour le vivant à Montpérou, la PVM 34, continue de se mobiliser pour la préservation de la biodiversité sur la commune. À Frontignan, des habitants et habitantes accusent GRDF de polluer leur terrain. À Villeneuve-les-Maglones, une cinquantaine de surveillants pénitentiaires ont bloqué l'entrée de la prison. Le comité de la France Insoumise du Lodévois-Larzac a dévoilé sa stratégie pour les municipales 2026 à l'ODEV. Et les deux têtes d'affiche chargées de l'incarner sont Sébastien Rome, que l'on connaît bien dans le Lodévois-Larzac, et Françoise Gall, retraitée de l'éducation nationale et récemment installée à l'ODEV. L'objectif du binôme est de créer une liste citoyenne d'union populaire, ouverte et non partisane, qui dépasse le cadre des partis politiques, a expliqué Sébastien Rome. Dans la continuité de réflexions enclenchées autour de la démocratie participative, il entend avec Françoise Gall multiplier les rencontres avec un questionnaire papier, qui est aussi accessible en ligne, pour recueillir le sentiment et les envies des habitants de l'ODEV. La ville serait, selon le binôme, marquée par la précarité, un déclin des services publics, l'habitat indigne et la perte d'attractivité commerciale. Elle souffrirait aussi d'un profond désaveu démocratique. Même au sein de l'équipe municipale dirigée par la socialiste Gaëlle Lévesque, ils seraient nombreux et nombreuses à exprimer leur rejet de ces méthodes et se sont désengagés, ajoutent Sébastien Rome et Françoise Gall. La maire incarnerait tout simplement la défaite. Et son opposant, le chef d'entreprise Claude Latèbe, ne constituerait pas une alternative crédible. Son manque de connaissance des dossiers malgré 5 ans d'opposition et son rapprochement avec l'extrême droite inquiète, alors même que le Rassemblement national continue de progresser partout en France, ajoutent Sébastien Rome et Françoise Gall. Mais ce qui embête les Lodévois en cette fin d'année scolaire, c'est plutôt la perspective d'un nouvel été sans piscine. Fermé depuis 3 ans en raison d'importants travaux de réhabilitation, le bassin municipal Nautilia n'ouvrira pas en juillet et en août, comme l'avait annoncé la maire il y a quelques mois. Dans un communiqué, Gaëlle Lévesque a indiqué pleinement mesurer la déception que peut engendrer ce report et a présenté les excuses de la municipalité à l'ensemble de la population pour ce contretemps. Un équipement structurant, moderne et adapté à tous les publics, à la hauteur des attentes exprimées par les Lodévois et Lodévoises, devrait être livré au printemps 2026, a-t-elle ajouté. Des alternatives ont été mises en place afin d'offrir aux familles, enfants et jeunes de l'ODEV des activités de plein air et d'accès à l'eau tout au long de l'été. En partenariat avec les services de la communauté de communes Lodévois et Larzac, la LSH, le club préado, les ados, ainsi que le centre socioculturel Luteva, plusieurs sorties encadrées seront proposées à la piscine de Lunas, au lac de Seyès et Rocozel, aux plages de Marseillan, d'Agde et Vias et de Palavas, et en bord de l'Ergue à Saint-Fréchou. En partenariat avec Héro Transport, des navettes quotidiennes de l'ODEV vers le lac du Salagou seront accessibles tout l'été. Contre l'avis des organisations syndicales représentatives CGT et FO et de la commission médicale d'établissement, l'Agence régionale de santé Occitanie a décidé d'en quelque sorte fusionner les directions du CHU de Montpellier, du centre hospitalier de Clermont-Lérault et de l'EHPAD Jean Péridier à Montpellier. Les opposants à ce projet de convention de direction commune demandaient au préalable une étude d'impact sur ses conséquences pour la gestion et la protection des personnels, le suivi des patients et patientes et le développement d'un service public de santé de proximité. Nous nous sommes entretenus ce matin avec le secrétaire général CGT du centre hospitalier de Clermont-Lérault.
En tant que représentant du personnel, donc le syndicat CGT a étudié attentivement le projet de convention de direction commune entre le CHU de Montpellier, le CHU de Clermont et l'EHPAD Jean Péridier. Mmh. Donc, nous constatons les objectifs affichés de cette convention, surtout en matière de coordination territoriale, de renforcement de la stratégie médicale partagée ou encore la mutualisation de certaines fonctions support. Nous ne contestons pas les enjeux aussi de coopération médicale. Mmh. Cependant, cette convention, en l'état, elle n'est pas assez détaillée et elle soulève plusieurs motifs qui préoccupe ben, les agents aujourd'hui.
C'est-à-dire que le projet de convention, là, dans sa version actuelle, il suscite, vous le dites, hein, de vives inquiétudes. Et également, les médecins, enfin la commission médicale d'établissement du centre hospitalier de Clermont-Lérault, a également émis un avis défavorable. Ils se disent surpris et préoccupés de ne pas avoir été consultés ni rencontrés dans le cadre de l'élaboration du projet, malgré des impacts sur l'organisation des soins. Vous avez rencontré la directrice générale du CHU de Montpellier le 12 juin et, pour faire part de vos alertes et de propositions alternatives. Mais il n'y a pas eu de modification. Donc, dans la réunion, l'impact de cette... alors, c'est pas une fusion, mais c'est une direction, une convention de direction commune. Est-ce que ça signifie des pertes d'emploi?
Ben, c'est ça, en fait. On a peur de ça, surtout. Parce que cette convention, en fait, ça supprime le poste de directeur sur le CH de Clermont. Et ça supprime le poste de directeur sur le CH de Périgueux. Et on va passer sur une direction commune, c'est-à-dire qu'il y a un organigramme qui va être fait et il y aura un directeur adjoint ou quelqu'un du CHU de Montpellier qui sera mis, par exemple, 2 ou 3 jours par semaine sur notre établissement et sur l'établissement de Jean Périgueux.
Ok, donc c'est une direction commune, mais c'est surtout dirigé par le CHU de Montpellier, en fait.
Bien sûr, oui, c'est la direction du CHU de Montpellier qui encadre tout ça. Et comme vous l'avez dit, en fait, ça suscite de vives inquiétudes de la part des agents et de tout le monde. Donc, il faut savoir que le comité social d'établissement donc, a rendu un avis unanimement défavorable, donc syndicat CGT-FO, et qu'on a refait un TSE quelques jours après, et pareil, unanimement défavorable. Que la CME, donc Commission médicale d'établissement, a également rendu un avis défavorable. Comme vous avez dit, les médecins étaient surpris, préoccupés, etc. etc. Mais à 13h, le 27 juin à 13h, les médecins ont rencontré la directrice du CHU qui a pu parler avec eux. Voilà.
Et donc, qu'est-ce que vous attendez de la réunion de cet après-midi?
Ben, nous, on attend que... qui est un engagement clair de la part du CHU de Montpellier. Nous, ce qu'on veut, c'est une étude d'impact de l'organisation projetée sur l'amélioration pour l'accès à la santé pour les citoyennes et les citoyens et les incidences sur l'amélioration des conditions de travail des personnels de santé. C'est-à-dire qu'on aimerait une garantie écrite du maintien des effectifs administratifs et logistiques actuels sur le site, parce qu'il n'est pas question de mutualiser les ressources humaines au profit du CHU.
Merci beaucoup d'être intervenu sur l'antenne de Radio Pays d'Hérault, RPHU, Monsieur Mazarone. Allez-y.
Je voulais dire un petit mot, juste. Je voulais féliciter tous les agents du centre hospitalier de Clermont-Lérault pour s'être mobilisés. Parce que ces agents qui veillent tous les jours à ce que nos aînés se portent bien, et ces agents ne doivent pas être une variable d'ajustement. Voilà.
Et on salue avec vous la mobilisation des agents et des agentes du centre hospitalier de Clermont-Lérault. On a vu qu'ils étaient mobilisés depuis plusieurs mois et nous bénéficions tous et toutes sur le territoire du Clermontais de leur engagement en faveur de la santé des uns et des autres. Merci beaucoup, Monsieur Mazarone.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Lors d'une réunion qui a eu lieu cet après-midi à Montpellier, la convention de direction commune a été validée. Nous sommes donc avec Corinne Canter. Corinne, bonjour.
Bonjour Julie.
Corinne, nos auditeurs et nos auditrices te connaissent, moi aussi, donc je vais donc te tutoyer. Tu animes une émission Les Chroniques du Vivant sur Radio Pays d'Hérault, RPH1. Mais aujourd'hui, tu es avec nous pour nous parler de l'APVM 34, Association pour...
Agir pour le vivant à Montpérou.
Exactement. Qu'est-ce qui se passe à Montpérou?
Notre association s'était montée contre un projet de zone d'aménagement concertée sur 8 hectares il y a quelques années. Et donc, cette association s'est montée en lutte contre ce projet. Donc, le projet a été retoqué au niveau du SCOT en 2023.
Donc le schéma territorial.
Voilà, pour essayer d'appliquer les directives du zéro artificialisation nette. Et donc il a été retoqué de 8 hectares, enfin environ 8 hectares, jusqu'à 3 hectares. Donc le projet a été diminué en surface, mais la densité de logements est toujours la même, c'est-à-dire il y a 20 logements au mètre carré. Et l'emplacement désigné qui a été retenu est une magnifique friche herbacée, pleine de biodiversité, qui se trouve auprès de la 10 et qui jouxte le village. Et c'est une friche très très... elle reçoit toutes les eaux de pluie qui arrivent de l'amont. C'est une des rares zones encore vertes de Montpérou, du village. Alors l'étalement urbain, voilà, normalement, enfin étalement, c'est-à-dire que ce qui est autorisé, c'est en étalement, et qu'après 2050, normalement, les municipalités n'auront plus le droit à cet étalement. Donc, notre maire, notre municipalité se dépêche de faire passer ce projet, parce qu'après, il n'y aura plus la possibilité de le faire. Le besoin en logement n'est pas...
Camille, quelques précisions pour nos auditeurs et nos auditrices. Donc, vous vous créez en association en 2022 contre cette ZAC dite des Prés de la 10. Oui. Donc, c'est un terrain, un vaste terrain en entrée de ville à Montpérou. Et le maire, la municipalité, dit, elle, être confrontée à la nécessité de répondre à la poussée démographique. Et il y a la préfecture derrière aussi qui dit qu'on doit accueillir, tout le monde doit participer à l'effort d'accueil de nouveaux arrivants sur notre département, sur l'Hérault. Donc les maires construisent. Et vous, il y avait plusieurs choses. C'est que la concertation publique a été assez minimaliste, on peut dire. Vous n'avez pas eu vraiment voix au chapitre, vous, habitants et habitantes de Montpérou.
Oui, la première concertation sur le projet, au début du projet, avait été... Il y avait beaucoup de monde et il y avait une nette opposition qui s'était
dégagée.
Voilà. Et bon, là, il y a eu une autre concertation due, puisque il y a modification de la ZAC en réduction. Et cette concertation a été organisée donc par la municipalité en faisant appel à un cabinet, Territoire Essence, avec deux médiatrices qui étaient chargées de distribuer la parole et tout. Et en fait, le débat s'en est retrouvé très, très, très amoindri avec deux personnes donc, qui reformulaient systématiquement les dires des intervenants.
C'était un débat un peu orienté.
C'était tout à fait orienté. Et puis c'est surtout qu'à l'issue de ce débat, d'abord il y avait très peu de monde parce que ça s'est passé, évidemment, la concertation a démarré pendant l'été, au mois d'août, pendant que tout le monde est en vacances. La réunion publique a eu lieu le 17 septembre, c'est-à-dire à la rentrée scolaire aussi. Donc il y avait une centaine de personnes à tout casser, quoi. Et il y avait quand même pas mal d'opposition et des questions. Le compte-rendu a été fait par la municipalité et ce cabinet. Il n'a pas répondu aux questions qui ont été posées. Enfin, en grande partie, c'est passé à côté, quoi. Et bon, ça pose... Il y a un énorme problème de démocratie au niveau de Montpérou, parce que chaque fois qu'on a demandé des débats publics ou des consultations pour avis à la population, tout a été refusé, de même qu'un référendum, de même... Alors bon, on se trouve devant un mur, en fait, parce que toutes ces concertations, mais il n'y a pas qu'à Montpérou d'ailleurs, hein, ne servent pas à grand-chose, puisque la parole citoyenne n'est est rarement prise en compte.
Et les enjeux pour vous, les possibilités d'action, là, quelles sont-elles, Corinne ?
Alors, on a fait, bien entendu, on a fait un recours gracieux qui a été, comme d'habitude, rejeté par la mairie. Donc, on a attaqué un recours contentieux avec Alice Terras, hein, qui est notre avocate. Et bon, on va voir la suite. Là, il y a un aménageur qui va être désigné mi-juillet. Bon, on est en train de réfléchir aux actions qu'on pourrait mener sur le terrain. Ceci dit, on fait énormément d'animation pour récolter un petit peu des fonds, parce qu'un avocat, ça coûte cher. Donc, on fait beaucoup, beaucoup d'animation auprès de la population. Et on a la chance maintenant d'avoir deux naturalistes qui sont au sein de notre groupe. Nous avons quand même 97 adhérents. Et on organise des balades naturalistes sur cette friche pour montrer la beauté et la biodiversité qui sont... Parce que beaucoup de gens du village, n'y vont jamais, ne connaissent pas l'endroit. Et en fait, pour l'instant, on est à plus de 70 espèces recensées, alors que le projet fait encore l'objet d'une dispense d'études d'impact en disant que l'impact n'est pas significatif. aucune étude a été menée réellement. Le soin en est laissé à l'aménageur. Bon, on imagine bien l'aménageur dans quelles conditions ça va se faire. Mais en tout cas, bon, c'est pas très sérieux. Surtout qu'on a envoyé un contre-projet, enfin un projet alternatif maraîcher et nourricier pour cette friche, pour ce secteur, puisqu'il reçoit de l'eau. C'est des belles terres où il y avait le parquage d'animaux jadis et tout.
Pardonne-moi, tu parles oui. d'eau et il y a une question qui avait été soulevée également avec ce projet d'aménagement. C'est que s'il y a 25 logements, donc avec X personnes qui viennent s'installer, la question de la ressource en eau se pose.
Alors, donc, à la concertation, l'étude, le dossier sur l'eau avait été mené en disant que, bon, d'ici 2030, il n'y avait aucun souci, 2040, c'était moyen, et 2050, par contre, c'était en déficit. On oublie de le souligner, là, maintenant. Et quand on voit un petit peu tout ce qui s'annonce avec le réchauffement climatique, on peut quand même se faire du souci. Bon, après, tout est chiffré par la mairie, mais c'est, comment dire, hein, c'est un peu une vue court-termiste, quoi. C'est jamais en fonction des réalités qui sont là, quoi. Hein. Bon, en plus, c'est une zone là-bas où il y a un retrait-gonflement des argiles qui est important. Il y a beaucoup de problèmes de maisons qui se fissurent en bordure. Il y a aussi pas mal de riverains qui ne voient pas d'un très bon œil aussi l'installation. C'est sur 10 ans de travaux, de bétonisation, d'artificialisation de terre, avec la pollution, avec le bruit, avec... Voilà.
C'est-à-dire que vous n'êtes pas, parce que ce qui avait été soulevé par l'équipe municipale et par le maire, M. Carceller, c'était que vous seriez, vous les opposants à ce projet, ou en tout cas vous les porteurs d'un projet alternatif, vous seriez en fait... un peu des bobos écolos qui c'est veulent ça. Privilégier l'entre-soi et qui ne souhaitent pas qu'il y ait de nouveaux arrivants à Montpellier.
Alors ça, c'est vraiment le discours du maire, parce que en fait, on n'est absolument pas pour l'entre-soi. Des logements, il va y avoir sur la zone donc 60 logements, dont 12 sociaux locatifs. Hein. Nous, on dit qu'il ne faut pas ghettoiser, au contraire, les logements sociaux. Il y a 90 logements vacants, et encore, on peut le vérifier par l'INSEE, hein, sur les sites. Il y a 90 logements vacants à Montpellier. Dans le bâti existant, et qui pourraient servir. C'est les préconisations, d'ailleurs, du SCOT, hein, d'utiliser les logements vacants et la densification dans les villages, dans les dents creuses. Alors, bon, là, il dit, c'est une dent creuse. C'est pas vrai, c'est pas une dent creuse. Ce sont plusieurs petites parcelles qui sont, au contraire, très ouvertes. Maintenant, il suffit, parce qu'il y a beaucoup de permis de construire qui ont été accordés et qui jouent sur la zone. Alors, petit à petit, forcément, ça risque de le devenir, si ça continue. Et le problème, c'est qu'il y a d'autres orientations d'aménagement programmées qui existent. Il y en a 3 ou 4 même. Qui prévoit la densification avec donc des logements, déjà on est à ce qui était préconisé au niveau de l'évolution démographique de Montpellier. Donc en fait, il n'y a pas besoin de tout ça. Il suffirait de faire une étude sérieuse sur les logements vacants, parce qu'il y en a une qui a été présentée à la concertation par le service habitat de la CCVH, qui a dit « Ah ben écoutez, alors nous, pour les logements vacants à Montpellier, on a fait une étude sur Montarnaud et sur Agnane, et grosso modo, sur 100 logements vacants, on retombe à peu près à 5-6 de disponibles. Au final, pour Montpellier, ça représenterait 2 logements vacants. » De qui on se moque? Il n'y a pas eu une seule étude sur Montpellier de fait, réellement.
Donc c'est un dossier qu'on suivra avec beaucoup d'attention voilà. sur Radio Pays des Roses. Je redonne les coordonnées de l'association, le site apvm34.fr. Et avant de nous quitter, il y a un autre souci, un autre dossier en cours à Montpellier. Enfin, il y a une question récurrente autour du parking et de ces contraintes d'usage entre les parkings et la végétalisation nécessaire. Et donc, il y a une très belle parcelle, une friche, de laquelle on voit le Castellas.
Tu la connais,
Et cette parcelle, j'y suis allée, oui. Cette parcelle va être transformée, a été vendue par la mairie à un prix supérieur à ceux préconisés par la SAFER. Et un parking va être construit sur cette parcelle.
Voilà, alors on ne sait pas les modalités encore exactes du parking, hein, s'il va être bétonné ou pas. A priori, la mairie a acheté ce terrain 4610 m² pour en faire un espace de rencontre, enfin convivial, éventuellement des jardins partagés. Alors là, se pose aussi le problème de l'eau, encore une fois, et un parking. Et donc, il y a un peu une parking mania à Montpérou, hein, parce que le parking du Barry, c'est vraiment un énorme chantier.
Donc en bas du Castellas, hein, le quartier
voilà,
du Barry.
Voilà, qui détruit complètement la vue qu'il y avait sur ce si beau quartier du Barry, quoi. Alors maintenant, il y a cet énorme rond-point qui ne draine pas plus de voitures. Bon. Et donc là, il voudrait libérer des places en faisant un parking en haut du quartier de la Meillade. Malgré l'opposition qu'il y avait eu déjà en 2017 de beaucoup de riverains et des habitants. Et tout ça encore se fait sans consultation au moins des habitants du quartier. Et il y a d'autres solutions qui existent, notamment à l'entrée de la Meillade. Il y a un parking qui s'appelle le parking du tombeau de Vinas, qui était censé servir au camping-car, et en fait, qui est très très peu. Il y a très très peu de monde, et il y a plein de places aussi pour les voitures. Donc il faudrait peut-être essayer d'envisager une autre politique au niveau des stationnements, et préserver ces cônes de vue qui sont quand même exceptionnels. Sur le Barry, d'accord, mais sur le Castellas, sur le Pic Baudil et sur les falaises du Joncas aussi.
C'est un merveilleux panorama.
C'est vraiment un très très bel endroit, sans compter que ça ne va pas éviter les stationnements qui sont sur la place du jeu de ballon qui est en face de ce terrain, puisque au contraire, les voitures pour venir se garer vont y passer sans arrêt. Enfin, c'est fausses bonnes idées, moi, c'est ce que j'appelle les fausses bonnes idées.
Avec un déficit démocratique.
Voilà, comme d'habitude.
Bon, Corinne, merci beaucoup. On suivra avec beaucoup d'attention ces dossiers sur Radio Pays des Roues RPH Sud. Merci, à bientôt.
Merci, Julie.
À Frontignan, les habitants du lotissement L'Hirondelle dénoncent le déversement sur un terrain boisé qu'ils partagent, d'eau sale et l'enfouissement dans le sol de boue polluée qui font mourir les arbres et la végétation de leur quartier. Une vingtaine de familles vit dans cet endroit situé au bout du quai Voltaire face à l'ancien site industriel d'ExxonMobil. Ils imputent à GRDF, le réseau de distribution de gaz, la responsabilité de la dégradation de leur cadre de vie. Frédéric Roland, directeur territorial de GRDF pour l'Hérault, conteste ces accusations. Nous intervenons, à la demande de la mairie de Frontignan, sur un tout petit chantier de déplacement d'un poste réseau et les impacts sont minimes. Nous exploitons des canalisations qui transportent du gaz dans des canalisations qui sont entièrement sécurisées. Les habitants ont appelé GRDF pour faire une déclaration de sinistre et demander la remise en état, avec des arbres, de leur terrain. S'ils aimeraient que cela s'arrange à l'amiable, ils n'hésiteront pas à aller, si nécessaire, plus loin pour faire valoir leurs droits. Surveillants pénitentiaires et conseillers d'insertion et de probation de la prison de Villeneuve-les-Maglones se sont rassemblés dès 6h du matin, hier, mercredi 2 juillet, pour alerter sur la surpopulation carcérale et le manque de personnel. L'établissement compte 1082 détenus pour environ 600 places, avec près de 200 matelas au sol, dans des cellules où s'entassent 3 voire 4 détenus. Bref, des conditions de détention qui ont un impact sur les conditions de travail. Un ou une surveillante s'occupe seule de plus de 200 détenus sur un étage. Entre insalubrité et insécurité, les surveillants sont à bout, fatigués par une situation devenue ingérable. En fin d'année, on devrait atteindre les 90 000 détenus pour 62 000 places dans l'Hexagone. Ce n'est plus possible. Quel est le sens de la peine quand vous mettez 4 détenus dans une cellule? On crée de la récidive, alerte Emmanuel Chambaud, secrétaire général UFAP, UNSA Justice. Les surveillants demandent un désencombrement de la prison, le transfert des détenus condamnés hors de l'Occitanie, région dont les prisons sont les plus surpeuplées de France, et le recours plus systématique aux peines alternatives, comme le placement sous bracelet électronique, le travail d'intérêt général ou les centres de semi-liberté. Pour terminer ce journal, on souhaite un bon anniversaire à l'AOC Terrasse du Larzac qui fêtera ses 10 ans lors de circulades vigneronnes organisées autour de Saint-Jean-de-Fosse vendredi 4 et samedi 5 juillet. C'est la fin de ce Zoom Info, je vous remercie de l'avoir suivi. L'actualité locale devrait revenir cet automne sur notre antenne. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée et un très bon été sur les ondes de Radio Pays des Roues, RPH Sud.